balade au cœur du village de l'Escale, Chris Alessandri.
Brigitte Bourg, en charge de la communication et de la vie associative dans le village de l'Escale, nous avons l'habitude de vous retrouver fréquemment sur nos ondes avec cette émission qui nous permet de voyager dans ce village merveilleux. L'Escale en balade, nous retrouvons Brigitte pour nous donner le sommaire de l'émission.
Donc nous allons continuer notre sujet qui déroule l'agriculture au fil des saisons. Cette fois-ci, nous allons accueillir Nadège et Guillaume Paglia qui sont éleveurs d'ovins de caprin, mais aussi la culture des plantes, c'est-à-dire la sauge sclarée, le lavandin pour la fabrication des huiles essentielles. Puis nous aurons le plaisir d'accueillir un sportif escalé qui a fait un exploit sportif mais aussi humain, qui a fait une épreuve cycliste qui fait partie des 7 majeurs, c'est-à-dire il faut en un temps donné franchir 7 cols avec 12 000 mètres de dénivelé positif et cela en moins de 24 heures. Puis nous aurons une association. Il s'agit de l'ESMD, l'Entente Sportive de Moyenne Durance, Foot, qui relance un projet qui s'appelle Opération Foot Avenir, qui est axé sur l'éducation des petits dans le foot. Ça commence dès tout petit sur le City Stade et pour pouvoir après jouer en équipe dans les plus grandes sections.
Merci Brigitte. L'Escale en balade. Tout de suite, première invitée.
Balade au cœur du village de l'Escale.
Nadège et Guillaume, c'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission ici avec cette rencontre avec les personnes qui sont là et qui sont les acteurs du territoire.
Ben voilà, moi je fais les plantes aromatiques et médicinales, la sauge clarée et le lavandin. Je fais également des plantes aromatiques et médicinales pour les ventes en sec, en vrac, pour les infusions ou pour la cuisine.
Comment se gère la vie au quotidien? Qu'est-ce que vous faites?
Ben, y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de temps de recherche pour ne pas se tromper sur les plantes. Après, il faut également savoir qu'il y a 148 plantes médicinales qu'on appelle des plantes libérées, qu'on a le droit en vente directe. Et certaines plantes qui ne font pas partie de cette liste, on ne peut pas les vendre en direct, mais il faut passer par une officine ou par des sociétés pour les transformations.
Quelles sont ces plantes que vous récoltez sur le territoire? Est-ce qu'elles sont communes, propres à la région, ou alors il y a vraiment des plantes spécifiques?
Il y en a certaines qui sont communes, comme le thym, le fenouil sauvage. Après, il y en a que j'ai dans le jardin, il y en a que c'est en cueillette dans la colline, sur mes propriétés. Puis voilà, il y a du thym serpolé, exemple, des coquelicots, on vend les pétales, de la mélisse, des cynorhodons, qui est assez commun un peu de partout, je veux dire, certains trucs, mais après, d'autres, non.
Guillaume, de quelle façon est-ce que vous travaillez avec Nadège?
Mais moi, j'ai été conjoint collaborateur pendant 10 ans et je me suis installé au mois d'avril l'année dernière. J'ai repris l'élevage ovin caprin en faisant de la vente directe d'agneaux et de cabris.
Et vous avez une spécificité, c'est que vous êtes le seul éleveur ici sur la commune.
Et je suis le dernier, effectivement, sur la commune et ça devient de plus en plus dur au contexte du loup. Beaucoup de gens arrêtent ou passent à l'élevage bovin, qui commence malheureusement lui aussi à connaître des difficultés. Donc après, il faut que ce soit une passion et pas se dire qu'on va s'enrichir avec ça. C'est un métier, c'est pas fait pour s'enrichir.
Cette passion, elle vous est venue comment et quand?
Moi, je suis né dans un tout petit village des Alpes-de-Haute-Provence et j'ai toujours connu ça étant petit. Il y avait toujours des éleveurs, les pépés, on les appelait à l'époque au village, et ils avaient leurs 50 animaux, tout ça. Et après, au décès de mon beau-père, j'ai commencé à aider le grand-père de ma femme, à lui aider, et puis finalement, je suis resté dans la bergerie, on va dire.
Alors, c'est un travail où on n'a pas le temps de se tourner les pouces, il faut le dire, parce que la journée, la soirée, c'est très réglé.
L'emploi du temps, il est déjà dicté par la météo, par les saisons, en fonction de l'agnelage, de la mise à la lutte. Et après, le soir, l'agnelage, on monte 2-3 fois dans la nuit, c'est... Après, c'est pas spécialement un réveil précis, c'est pas des heures précises. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de vacances. On a, après, le reste, c'est les saisons et la météo qui font que notre emploi du temps. Et effectivement, après, quand il y a une brebis qui a du mal à faire un agneau, faut savoir comment faire. On n'est pas gynécologue, mais on apprend. Ça fait partie du métier, ça fait partie des différentes facettes de ce métier. Savoir quand leur nourrir, quand leur donner un peu plus de maïs, un peu moins, un peu plus d'orge. Sans courage, on aurait arrêté. Je veux dire, c'est comme si s'il n'y avait pas la passion. Le courage, oui, après, il faut être travailleur.
Nadège et Guillaume, qu'est-ce qui vous accroche à la terre ici à l'Escale? Pourquoi est-ce que vous êtes à l'Escale et vous avez des projets?
En gros, l'exploitation est de ma famille. Comme a dit mon mari, mon papa est décédé, donc on a repris l'exploitation familiale. Après, on a un amour pour la nature, pour les animaux, et puis... C'est parti. Après, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où c'est plus simple. Dame Nature fait son travail des fois, et puis des fois, ça va et des fois ça va pas. Hein. Le matériel ou les animaux, chacun fait sa tête aussi, comme il veut.
Là, visiblement, vous êtes vraiment au diapason. Peut-être pas toujours évident quand on a un emploi du temps aussi chargé que le vôtre. De quelle façon est-ce que vous gérez votre vie? Elle est de tous les jours. Est-ce que chacun a son travail systématiquement? Ou alors, à un moment donné, vous interagissez un tout petit peu, vous confiez d'autres responsabilités. Comment ça se gère quand on est un couple?
On fait comme on peut. Et quand, en plus, on a des enfants également, parce qu'il y a aussi la famille aussi. Donc on a des enfants, donc les week-ends on part pas et ils suivent souvent avec nous quand on va garder, et après on arrive à gérer plus lui le matin, moi le soir la bergerie, et après on s'aide sur nos exploitations distinctes. Quand l'un a besoin de l'autre, l'un va aider l'autre, tout simplement. On s'y colle tous les deux sur nos deux exploitations différentes.
Sans trop de tension, ça va?
Ça dépend des jours, mais c'est comme tout le monde, c'est comme ça.
Ça se gère bien. Après, effectivement, il y a des jours où on n'est pas forcément d'accord. Après, c'est sûr que je suis plus, moi, sur le côté mécanique pour ces cultures. Je lui rends service et en échange, elle va garder les brebis des fois le soir. C'est ce qu'on appelle l'entraide agricole. Donc, c'est quelque chose qui est normal. En principe, c'est entre différentes familles ou différentes exploitations. Nous, c'est entre mari et femme. Et après, oui, effectivement, il y a des jours où c'est dur. Mais je pense que tous les couples connaissent ça.
Exactement.
Je pense pas que ce soit propre à notre exploitation.
Des fois, pour l'agnolage au milieu de la nuit, on fait pile ou face, et celui qui perd, il s'y colle. Et puis, s'il y a besoin, c'est l'autre qui monte. Mais après, comme on a des enfants en bas âge, on peut pas non plus les laisser à la maison. Et quand on a besoin d'être tous les deux sur l'exploitation au milieu de la nuit, les enfants suivent. Maxi-cosy dans la voiture, la doudoune, la couette pour la grande. Et puis voilà. C'est beau d'un côté. Et après, c'est un peu difficile aussi pour la grande de 9 ans de dire qu'il faut suivre tout le temps. Mais après, il y a des jours où ça va, des jours où elle est trop contente et des jours où elle traîne des pieds. Et puis c'est comme ça, c'est la vie de la ferme.
Pour situer l'exploitation?
Elle se situe tout en haut du village, un hameau où la route s'arrête à la sortie du hameau. Et elle est entre le haut de l'Escale et les limites de commune de Mirabeau. Elle est dans la montagne, il n'y a plus rien après. Il reste une piste derrière, donc c'est à l'écart du village, certes. Parce qu'après, certaines personnes ne conçoivent pas qu'on laisse les sonnailles aux brebis la nuit. Il y a des chiens qui aboient, forcément. Nous, une voisine qui est arrivée nous a demandé si on pouvait enlever les sonnailles le soir et les remettre le matin. On a arrêté, quoi.
Comment vous faites alors? Parce que vous pouvez pas en rigoler non plus, ça crée des tensions. Comment vous faites pour gérer ça, par exemple?
On leur explique que s'ils veulent, il y a de la place autour du périphérique parisien ou au bord des villes de Marseille. Et puis à la place, ils demanderont voiture coupée de moteur le soir. Si on vient vivre à la campagne, il faut vivre avec la campagne. Un coq qui chante le matin, c'est un coq. On peut pas lui en vouloir non plus, quoi. C'est la vie à la campagne. Après, on a l'avantage d'être sur une commune qui est quand même assez grande, où il y a on a à peu près tous les commerces disponibles, indispensables, on va dire. Donc après, faut pas se plaindre non plus, on est bien.
Après, pour plus d'informations sur l'exploitation agricole, il y a un Facebook, c'est Gertrude Cueillette. Gertrude parce que ça se retient bien dans la tête, et Cueillette parce que on parle souvent de Cueillette dessus le site. Et également, des petits films que quand on garde, quand il y a l'agnolage, des agneaux mis à bas. Il y a des jours quand on ramasse le foin, plein de petites vidéos, petites photos et plein d'informations. Et également du coin d'Escale Château, des petites publicités que je fais aussi d'autres commerçants, quoi.
Balade au cœur du village de l'Escale.
Michel, quand on vous rencontre, on sent tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un qui aime peut-être se lancer dans des aventures exceptionnelles. Est-ce que je me trompe?
Affirmatif, oui, tout à fait, oui.
Du style, parce que là, vraiment, dernièrement, vous avez affronté, comme on dit, les 7 majeurs, c'est-à-dire?
C'est un défi, on a décidé de le réaliser en moins de 24 heures, parce qu'en fait, c'est une confrérie qui donne la possibilité de réaliser soit en moins de 24 heures, 48 heures ou alors toute l'année pour effectuer donc ce défi qui comporte 7 cols, donc le col de Vars, col d'Isoire, col Agnel, après on est en Italie, col de Sampere, Foniaria, la Lombarde et revenir par la cime de la Bonnette, revenir au pied du col de Vars.
Là nous sommes dans l'exception, on est bien d'accord.
Oui, je pense. Oui, c'est quand même quelque chose de... Surtout quand on veut le réaliser comme nous, on a décidé de le programmer en moins de 24 heures. Quoi.
Combien de kilomètres en moins de 24 heures et combien de dénivelé?
Alors là, il y a 360 kilomètres pour 12 000 mètres de dénivelé positif. Ce qui représente quand même quelque chose d'énorme, quoi. C'est vraiment le dénivelé qui est le plus difficile à préparer. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de la préparation, quoi. On ne peut pas se lancer dans un défi comme ça sans avoir une préparation avant. En fait, c'est la préparation qui va permettre d'avoir l'état de grâce le jour J, c'est ça. Du coup, nous, on y est allé crescendo. Donc, ça fait déjà des années à relever des défis. Tous les défis qu'on a réalisés déjà... Avant, ça nous a servi de préparation pour justement, on monte en gamme. Quoi.
Non mais Michel, dites-moi, vous avez quand même le temps de regarder le paysage à des moments donnés?
Oui, complètement, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment que de la gestion de l'effort. Il faut gérer en permanence. Enfin, on ne va jamais très vite. Parce que la clé pour réussir ce genre de choses, en plus de l'entraînement, de tout, c'est de prendre le premier col à la même vitesse qu'on va finir le dernier. C'est-à-dire que l'erreur que beaucoup commettent, comme on arrive avec beaucoup de fraîcheur, d'entraînement, d'énergie, de vitalité, le premier col, on ne sent pas les pédales finalement. Et si on ne se freine pas, on va le monter trop vite. Le deuxième, on va encore le monter, mais c'est par méconnaissance, c'est pas le fait. Et ça va être dommageable pour la fin. Donc là, il faut vraiment se canaliser et avoir cette capacité de tirer le frein à main et de vraiment monter le premier. Alors c'est hallucinant parce qu'on dirait qu'on n'avance pas puisqu'on a tellement de fraîcheur, on est dans les premiers kilomètres. Moi je pense que la clé elle est là aussi. La clé pour réussir ce genre de truc c'est vraiment de gérer cet effort dès la première difficulté, dès la première ascension. Et après petit à petit la fatigue va arriver donc on va quand même diminuer mais on est quasiment à la même vitesse que dans le premier. Et ça fait que tout le long, ça s'enchaîne correctement, comme il faut. Quoi. Non, c'est fabuleux. Je souhaite à tout le monde, tout cycliste un peu fou, d'aller défier les 7 majeurs. Ils ne le regretteront pas.
C'est toute une référence que vous avez comme bagage sportif.
Oui, alors ça a démarré par le VTT. On a fait donc la MB Race, c'est le Tour du Mont Blanc. Donc ça, c'est en VTT, la Transvésubienne. C'est du côté de Nice, le Roc d'Azur Marathon. C'est des longues distances en VTT. Ça nous a déjà donné un peu le goût, l'envie et connaître déjà un peu l'effort long, quoi, les longues distances. Et après, on est parti sur de la route. Donc, on a fait plusieurs fois les fondus de Lubaï, c'est les 7 cols, ce qu'on appelle les 7 cols. Après, on est allé faire le tour du Mont Blanc, donc en route. Ah ben là, on part de France, du col des Saisies, on bascule en Suisse, on revient en Italie et pour revenir en France. Donc, on fait vraiment le tour du Mont Blanc intégral par la route. Donc là, c'est pareil, par des cols mythiques, quoi. Le Grand Saint-Bernard, le Petit Saint-Bernard, Cormet de Roselin, le col des Saisies. Et plein de petits cols avant d'arriver à Chamonix, la Forcla, le col des Montées, c'est toute une succession. Donc là, c'est 330 km pour 8800 de dénivelé. Et ça, c'était avant. Ce qui nous donne aussi la motivation chaque fois d'aller essayer de chercher encore plus dur, plus compliqué. Il faut être passionné. Il faut être passionné, être déterminé. C'est vraiment l'amour de la montagne, des paysages, le dépassement de soi qui fait que c'est... On a tous cette particularité qui fait que si on veut se dépasser, avoir le dépassement de soi comme ça permanent, c'est, je dirais, thérapeutique. C'est que quelque part, il y a... moi, je l'explique comme ça. On a été un peu cabossés, quoi. On n'est pas des gens, entre guillemets, normaux au départ. Ce qui fait que vouloir toujours se prouver quelque chose, aller toujours plus loin, c'est ce qui nous caractérise quand même un peu, je pense, toutes les personnes qui se lancent des défis comme ça. Parce que, entre guillemets, je pense que si on est normal, je sais pas, on ne va pas faire ce genre de truc quelque part. Ça demande beaucoup de sacrifices, pour nous, mais aussi pour la famille, pour tous les autres. En fait, seul, on n'est rien. Je veux dire, là, pour tous les défis, notamment celui-là, là, on avait 3 véhicules d'assistance, donc il y a du monde autour, il y a des gens qui viennent nous encourager, qui nous soutiennent. Nous, on pédale, on se fait plaisir, mais c'est très égoïste, parce que derrière...
Quelles sont les images que vous gardez de cet événement, de toute cette ambiance que vous avez traversée, et en même temps, vous l'avez traversée d'une façon très physique, puisqu'il fallait constamment être très bon.
Oui, ce que je garderai, je pense, c'est les paysages. les paysages qui s'enchaînent, merveilleux. Donc là, on est parti à 19h30 donc de Josier, de jour. On a fait les premiers kilomètres, donc le premier col. On l'a basculé au coucher du soleil, donc on voit ce coucher du soleil sur les montagnes, c'est magnifique. Toute la partie nuit, donc du coup on roule de nuit, c'est autre chose. C'est la nuit, c'est fabuleux. Donc on a monté l'Isoire de nuit et après le lever du soleil sur le col Agnel, ces montagnes autour, les deux cols italiens qui sont majestueux, très sauvages. Enfin moi je dirais c'est vraiment l'environnement. Permanent, qui donne vraiment de l'essence. C'est fabuleux, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui m'a vraiment, tout le long, qui m'a porté, quoi.
Michel, quand on a traversé donc tous ces périples, comment est-ce qu'on en ressort en tant que sportif et en tant qu'être humain que vous êtes ?
Eh ben, la première semaine, on est sur le petit nuage, on est bien, on est content, on est satisfait, et puis derrière, il y a quand même une fatigue qui s'installe, et psychologiquement, pour ma part, il y a une redescente, quoi. Parce que c'est fini. Alors, c'est pas un état dépressif, mais il y a quand même. On ne se sent pas bien, quoi. Parce que, j'allais dire, ce qui nous motiverait le plus, c'est de recommencer, de revivre ça. Ces sensations énormes, ce côté. Mais on ne peut pas. Le corps, il a besoin de se reposer. On est obligé de passer par une période d'inactivité, façon de parler. Et donc là, c'est un peu déstabilisant.
Comment est-ce que vous êtes perçu à l'escale par les personnes que vous côtoyez au quotidien, que vous aimez bien ?
Bon, je ne sais pas, comme un cycliste passionné. Je pense que c'est, ils me voient comme ça, comme quelqu'un de passionné par le vélo. Je pense, quand on parle de moi, on dit « Ah ouais, celui qui fait du vélo, c'est le cycliste ».
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter avant de se dire au revoir à un sportif comme vous, Michel ?
De relever encore, si possible, un défi encore hors norme, avant que le physique commence à baisser et revoir les choses à la baisse.
Vous avez une petite idée, peut-être ?
Peut-être en Suisse, aller faire les grands cols du Haut-Valais en Suisse, là. Le Furkapass, le Gotthard, le Nufferel, je veux dire tous les cols qui est en haut du Valais, là, il y a tout un enchaînement pareil qui est phénoménal, quoi. Ou peut-être les cols italiens, Stelvio, Mortirolo, Gavia, Montezoncola, je ne sais pas, on verra.
Merci Michel.
Merci à vous.
Balade au cœur du village de l'Escale.
Je suis avec Julien actuellement, notre invité. Ça y est, alors là, vraiment, nous sommes dans le côté très actif pour l'escale, parce que là, nous sommes au cœur du sport.
Oui, bonjour. Donc, moi, je représente effectivement une association qui développe la pratique du football sur la commune de l'escale, mais de façon un peu atypique, puisque depuis 2004, l'entente sportive moyenne endurance que je représente intervient à Château-Arnoux-Saint-Auban, à Perhuy et à l'escale. C'est un club de sport intercommunal. Et effectivement, notre vocation, c'est d'offrir les meilleures conditions pour la pratique du football sur ces belles communes constituées au cœur de la moyenne endurance.
Offrir des conditions, offrir également tout un contexte spécifique, c'est peut-être pas toujours évident. De quelle façon est-ce que vous vous y prenez ?
Eh bien, on s'y prend d'abord en essayant de créer du lien avec les communes et les forces vives de ces communes. La mairie en fait partie. Et notre objectif, c'est effectivement de pouvoir donner l'information à tous les enfants de ces villages, comme quoi le football et la pratique du football peut se faire dans de très bonnes conditions, ici à l'Escale, mais aussi à Château-Arnoux et à Perhuy, puisque notre vocation, c'est aussi de se faire rencontrer les enfants de ce carrefour pour qu'ils apprennent à jouer au foot ensemble et puis aussi à grandir ensemble, parce que le foot est avant tout un sport collectif et on aime beaucoup cette idée de pouvoir faire grandir ensemble toute une génération de footballeurs sur ce territoire. On essaie de définir un projet de club. Dans ce projet de club, il y a plusieurs ambitions. La première, c'est effectivement de pouvoir proposer les meilleures conditions pour la pratique du football et ça passe par la formation, par les progrès qu'on est susceptible de pouvoir proposer à nos enfants. Ça suppose d'avoir des éducateurs diplômés, des éducateurs qui se forment aussi, parce que le football, au-delà d'être un sport populaire qu'on peut jouer dans son jardin, c'est aussi un sport technique et on a besoin d'inculquer les bases techniques à ses enfants. Et donc on se donne les moyens de pouvoir leur offrir les meilleures conditions pour la pratique de ce sport. Pour vous donner un ordre d'exemple, on a cette année au club deux apprentis qui sont des jeunes du Carrefour et qu'on forme pour devenir des éducateurs au football. Ils sont en apprentissage, donc ils ont un temps à l'école, un temps au club, qui leur permet effectivement de se former, mais aussi de restituer ces connaissances auprès des enfants du Carrefour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième axe sur lequel on intervient, c'est effectivement la volonté de pouvoir développer un esprit club, une culture club, puisque comme je le disais, on est sur un territoire multiple, on intervient à l'Escale, on intervient à Château-Arnoux-Saint-Auban, on intervient à Perruy depuis maintenant de nombreuses années. Et ça, ça passe par un certain nombre de rencontres qu'on essaie d'initier sur nos enfants pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils apprennent aussi à découvrir les villages qui ne sont pas nécessairement les leurs a priori. Ça passe notamment, pour vous citer un exemple, cette année, on avait fait le choix de lancer une initiative qui s'appelait Foot d'avenir et qui est toujours en cours et qui va avoir lieu jusqu'aux vacances de la Toussaint et qui nous permet d'intervenir sur l'ensemble des city-stades de ces trois communes pour effectivement aller à la rencontre des enfants, notamment ceux qui ne sont pas licenciés au club, pour les initier à la pratique du football, pour leur donner envie de venir nous rejoindre. Ça, c'est un exemple très concret. Et puis, le deuxième aussi sur lequel on est en train de s'appuyer pour préparer l'avenir, c'est qu'on a la chance d'être sur un carrefour qui a pratiqué le football depuis très longtemps, et même depuis 100 ans, puisque notre club sera centenaire lors de cette saison. Et donc, on est en train de travailler à la sortie d'une petite rétrospective qui reprendra l'ensemble de notre histoire commune sur le football en moyenne durance de 1922 à aujourd'hui, qui va nous permettre, on l'espère, de faire le lien avec les générations qui nous ont précédés, leur rendre hommage, mais surtout aussi se tourner vers l'avenir, en les invitant peut-être à s'intéresser à ce qu'on fait aujourd'hui dans notre club. Et enfin, le dernier volet de nos activités, c'est effectivement de pouvoir être un club ouvert sur son territoire et sur ses communes d'intervention. Et là, pour nous, ça passe par tout un tas d'animations qu'on essaie de proposer. Alors, ça va de choses très classiques, comme des lotos, comme des vies de grenier. Mais on aimerait bien, notamment cette année, relancer ce qu'on appelle le tournoi des commerçants qui a pu exister sur nos communes il y a un certain temps de ça. On le sait bien, nos commerçants sont aussi très importants pour des clubs comme les nôtres qui vivons aussi de sponsoring. Les commerçants, c'est aussi la vie de nos villages et donc on aimerait bien faire ce trait d'union entre le sport et l'économie à travers un tournoi des commerçants intercommunal sur nos trois communes et probablement au printemps 2022.
À l'heure actuelle, vous gérez combien d'enfants ?
Alors, on est un club, effectivement, qui a la spécificité de n'intervenir que sur la jeunesse. C'est-à-dire qu'on intervient de l'école de football, les U6 et le baby-foot, puisqu'on a quelques jeunes enfants qui viennent apprendre à taper dans le ballon au tout début, jusqu'aux U20. Les U20, c'est les grands adolescents avant les seniors. On n'a pas d'équipe senior. Et donc, le tout réuni, ça fait de l'ordre de 160 à 70 licenciés sur nos trois communes.
Pour simplement parler un peu de l'esprit, les enfants, comment vous les sentez, la réactivité, quels sont les genres de réflexions que vous avez et qui vous incitent toujours à aller de l'avant et d'être motivé comme vous l'êtes?
Écoutez, d'abord, le football, c'est pour nous le plaisir. Donc, quand les enfants rentrent sur un terrain de foot, on a envie qu'ils prennent du plaisir, qu'ils aient le sourire. Et c'est vrai qu'on vient de traverser un an et demi très compliqué pour le sport en général et le football en particulier, parce qu'on a été contraints d'arrêter toutes les compétitions. Mais voilà, nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est les échanges, les rencontres, le progrès, le plaisir. C'est autour de ces valeurs qu'on bâtit notre club. Et voilà, c'est... Pour illustrer notre motivation, elle se résume à travers ces quelques éléments.
Merci Julien. Ainsi se termine notre petite balade à l'Escale. À très bientôt.
Balade au cœur du village de l'Escale. Chris Alessandri.